C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, avant nous ne savions pas, aujourd'hui nous commençons à comprendre. Viser une croissance économique infinie sur une planète aux ressources naturelles limitées est une aberration. Mais comment faire ? Produire sans détruire, c'est possible ? Eh bien, je vous l'annonce en fanfare, la réponse est oui. C'est le principe même de l'écolonomie, un concept élaboré par Emmanuel Druon, le patron de Pocheco, et c'est dans son bureau que nous avons installé notre studio. Pocheco, c'est une entreprise de 70 salariés qui produit 2 milliards d'enveloppes par an près de Lille, dans le nord de la France. Inventée de manière empirique, l'écolonomie a fait ses preuves, puisque plus de 30 000 salariés de 250 entreprises l'appliquent désormais dans une dizaine de pays. Emmanuel Druon était notre invité hier pour détailler sa méthode. Je vous invite à écouter l'émission. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que l'ensemble de Pocheco s'est mobilisé pour organiser cette semaine les premières rencontres de l'écolonomie. 3 jours d'échanges avec une douzaine de femmes inspirantes. Celles que vous allez découvrir dans cette émission ont un point commun. Chacune, à leur niveau, elles réintroduisent le vivant dans l'acte d'entreprendre. Ça valait bien une émission.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour Kalina Raskin.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur physico-chimiste et docteur en biologie et vous dirigez le CBIOS, un centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Réintroduire le vivant dans l'acte d'entreprendre, finalement, c'est le principe même du biomimétisme.
Oui, c'est exactement l'idée. Le biomimétisme, c'est donc s'inspirer du vivant pour innover, pour transformer nos façons de produire, de s'organiser. Et donc, notre métier au quotidien, c'est effectivement de réintroduire le vivant comme modèle au sein des entreprises.
Alors le vivant, souvent, quand on parle du biomimétisme, on se dit c'est imiter, s'inspirer en fait, par exemple, du fil très solide, de la toile d'araignée, où on cite toujours le TGV japonais qui a la forme du...
Martin Pêcheur,
voilà, pour ne pas trembler quand il rentre dans les tunnels. Mais le biomimétisme, ça va beaucoup plus loin que cela.
Le biomimétisme que nous, avec un collectif d'acteurs, que ce soit des chercheurs, d'autres entreprises ou les politiques publiques, on essaye de pousser. C'est un biomimétisme qui s'intéresse au cahier des charges du vivant et de se dire finalement, en termes de capacité à produire et stocker l'énergie ou le carbone, en termes de fabriquer des matériaux dans des conditions sobres, en termes de chimie douce, en termes de gestion remarquable de l'information, en termes d'organisation plus largement, le vivant, il répond à un cahier des charges absolument remarquable et c'est 3,8 milliards d'années d'évolution. Par essai erreur, on sélectionnait des stratégies qui finalement fonctionnent plutôt pas mal. Et donc l'idée du biomimétisme pour nous, c'est faire converger effectivement ce besoin d'alternative, d'innover, de faire autrement avec les enjeux de la transition écologique.
Voilà, et réfléchir peut-être aussi même comme un écosystème naturel et impulser en fait cette vision dans notre économie. On en reparlera tout à l'heure. Bonjour Leslie Goncalves.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes architecte, cofondatrice de Seuil Architecture. Vous avez reçu de nombreux prix internationaux, dont le prix Low Carbon des Green Solution Awards. Et vous démontrez, en fait, à travers votre travail, que nous pouvons penser nos villes, où vivent plus de la moitié de l'humanité désormais, hein, et des sites industriels même, comme celui où nous sommes, Pocheco, nous pouvons les penser en des lieux vivants et fertiles. C'est un peu contre-intuitif, mais vous, vous le démontrez par votre travail. Comment ?
Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, on n'y est pas venu de suite. Au démarrage, on a commencé à se réfléchir à des alternatives, notamment au béton. Et des solutions sont venues, des solutions telles que le bois, la paille, la terre crue, le chanvre. Et toutes ces solutions, finalement, c'est des solutions qu'on trouve dans des champs, c'est des solutions organiques qui sont durables, renouvelables. Et ça, ça nous a inspirés. Et puis, ça n'a pas suffi. On s'est rendu compte que même si on faisait finalement des bâtiments qui avaient des caractéristiques écologiques, une forme finalement de sobriété et de limitation des impacts, on n'avait pas suffisamment d'action sur les espaces périphériques alentours qu'on devait construire avec ça. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des écologues, des paysagistes, et on réfléchit à régénérer les milieux.
Mais comment on fait ça en ville ?
On prend en compte le lieu, on le marche, on considère un petit peu ce qui est déjà là, on fait attention aux saisons.
Vous avez dit on le marche ?
On marche le lieu.
On marche le lieu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'un peu comme un géobiologue, on le ressent, on voit ce qui s'y passe. Et puis on est avec des experts à ce moment-là qui, eux, nous donnent une étude d'impact. On essaye finalement d'implanter nos bâtiments au mieux, de considérer ces experts-là pour travailler avec eux, tisser du lien, recréer une synergie. Et puis faire en sorte qu'on ne va pas forcément détruire, qu'on va au contraire régénérer, trouver des qualités peut-être de réensauvagement. Alors c'est sûr qu'on va peut-être faire des erreurs, mais on va essayer en tout cas de donner à la biodiversité tout un support pour pouvoir vivre, s'installer et avoir aussi du recul sur ce que l'on fait, voir si on fait des erreurs et l'améliorer.
Alors quand vous avez prononcé le mot réensauvagement, vous avez regardé votre voisine. Bonjour Béatrice Kremer-Cochet.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, naturaliste et vous parcourez le monde depuis plus de 20 ans à la recherche des écosystèmes les mieux préservés. Les auditeurs n'ont pas l'image ici, mais si nous regardons par la fenêtre, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un site industriel. Il y a des feuilles, enfin, il y a beaucoup de vers autour de nous. Et si on ouvrait la fenêtre, on entendrait certainement les oiseaux qui sont autour de nous, parce que ce site industriel Pocheco est passé de 15% à 85% de surface végétale en une quinzaine d'années. Est-ce que c'est ça le réensauvagement pour vous?
C'est une forme de réensauvagement. On va dire qu'il peut y avoir plusieurs curseurs dans le degré de réensauvagement entre l'artificialisation totale et le réensauvagement au sens ultime du réensauvagement, c'est-à-dire la libre évolution. Il y a plusieurs gradations possibles. En fait, nous, le réensauvagement, tel qu'on le définit avec Gilbert Cochet dans notre livre « L'Europe réensauvagée », c'est protéger un endroit pour qu'il retrouve toutes ses fonctionnalités. Et dans les fonctionnalités qu'on veut retrouver, on peut attendre par exemple le retour d'espèces animales qui y vivaient autrefois et qui n'y sont plus et dont le rôle est important pour que l'écosystème fonctionne justement. Alors quand vous créez un petit havre de verdure autour d'une entreprise, autour d'une maison, autour d'un îlot d'immeubles, ça joue un rôle dans le réensauvagement dans le sens où ça va être des petits points de relais entre des espaces réensauvagés et en libre évolution, c'est-à-dire sans intervention, sans gestion humaine, plus grands. Il faut quand même une certaine surface pour qu'on puisse avoir cette libre évolution. Ça va être des sanctuaires comme les parcs nationaux, par exemple.
Vous disiez la surface minimum, c'est 70 000 hectares.
Oui, on a travaillé avec Francis Salet qui cherche à recréer une forêt primaire en Europe occidentale. Et il nous a demandé à combien on estimait cette surface minimale. Et on lui a dit, écoute, pour que ce soit fonctionnel, il faut qu'il y ait la possibilité pour les espèces qui ont besoin de plus d'espace possible de pouvoir vivre dans cet espace sans en sortir. Alors le loup, par exemple, il lui faut 300 km², c'est-à-dire 30 000 hectares pour qu'une meute puisse fonctionner. Donc si on ne veut pas qu'il y ait trop de consanguinité, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des échanges entre les différentes meutes, il faut qu'il y ait au moins, au minimum, deux meutes dans ton espace. Donc on va dire qu'il faut à peu près 70 000 hectares pour que ça puisse être un sanctuaire qui fonctionne tout seul. Mais après, si ces sanctuaires ne sont pas reliés entre eux, eh bien ça ne fonctionnera pas quand même, parce que c'est isolé géographiquement. Donc on a une sorte d'isolement, on va dire, qui peut aboutir à un cul-de-sac évolutif pour certaines espèces. Le lynx, par exemple, quand on a tenté la première réintroduction en Italie, ça s'est mal passé parce que finalement, il n'y avait pas suffisamment de possibilités pour cet animal de passer d'un endroit à l'autre. Et puis, il y a eu des problèmes de consanguinité et puis il a fini par disparaître.
C'est pour ça qu'on parle de corridor de biodiversité. Voilà, c'est là où, exactement, en tant que chef d'entreprise ou citoyen ou agriculteur, on peut tous, à notre niveau, créer des petites niches de biodiversité qui permettent de faire les liens entre ces grands,
exactement,
espaces.
Exactement. Ce sont comme des espèces de pas japonais, vous voyez, dans un jardin. Alors là, ce n'est pas des pas japonais en pierre, mais c'est des pas japonais d'espaces vivants, avec des espèces locales de préférence, et qui permettent effectivement cette circulation d'espèces petites ou grandes, parce qu'on pense souvent à la grande faune quand on parle de réensauvagement, mais permettre à des insectes, à des oiseaux insectivores, de se réapproprier le territoire et de se déplacer, c'est très important aussi. Et c'est souvent les plus petits qui jouent le rôle le plus important.
Et on verra tout à l'heure que l'économie de l'exploitation dans laquelle nous sommes peut tout à fait tirer des bénéfices de l'économie de la contemplation. Elle ne s'oppose pas tant qu'on le croit. On en parlera dans un instant. Bonjour Marie-Odile Simoneau.
Bonjour.
Vous êtes professeur en génie des procédés. Avec Guillaume Echevarria et avec d'autres scientifiques, vous avez créé la filière agromine. Alors là aussi, vous misez vraiment sur l'incroyable biodiversité et génie du vivant. Expliquez-nous quel est le principe.
Alors c'est assez simple à comprendre. Les sols peuvent contenir des métaux. Alors, ils peuvent contenir des métaux pour des raisons naturelles ou alors parce qu'ils sont pollués. Or, en principe, les plantes n'aiment pas les métaux, c'est-à-dire une plante a tendance à ne pas croître sur un sol pollué. En revanche, certaines plantes ont développé des facultés extraordinaires. Elles sont capables d'accumuler de très grandes quantités de métaux. Donc, elles agissent comme de véritables aspirateurs à métaux. Elles vont les chercher dans les sols et puis elles les transportent jusqu'à leurs feuilles et leurs fleurs. Donc, ensuite, que faire de ces plantes une fois qu'elles ont capté des métaux? Nous avons développé des procédés pour aller produire des composés qui ont une valeur économique à partir des métaux contenus dans ces plantes. Donc, l'agromine, finalement, c'est une filière complète, pluridisciplinaire. Il faut avoir des spécialistes de sciences du sol qui soient capables d'aller analyser les sols pour savoir s'il y a des métaux dedans, des botanistes pour reconnaître ces plantes, des agronomes pour les faire pousser. Donc ça, c'est tout le premier volet, hein, cultiver ces plantes. Et puis ensuite, des spécialistes de génie des procédés, chimie, hydrométallurgie, pour préparer des composés à valeur commerciale à partir des métaux contenus dans ces plantes. Donc on a beaucoup travaillé sur le nickel déjà, ça c'est vraiment notre métal modèle.
Alors justement, pour que les auditeurs comprennent bien, ces plantes hyperaccumulatrices, elles peuvent capter quelle quantité de nickel que vous arrivez à récupérer sur un hectare, par exemple?
Alors sur un hectare, on peut récupérer 150 kilos de nickel, hein, ce qui est vraiment énorme. Et puis, il faut savoir aussi que dans beaucoup de régions du monde, les sols pollués par les activités industrielles et les activités urbaines vont contenir, par exemple, du zinc, du cadmium, du plomb. Et certaines plantes sont aussi capables de les capter. Donc là, on agit véritablement pour la dépollution. Et ici, à Pocheco, est installée une parcelle d'agromine pour éliminer le zinc contenu dans la terre d'une parcelle qui a été polluée dans le passé.
Donc finalement, c'est transformer une contrainte en opportunité, c'est ça?
Exactement. On voit souvent les pollutions, les friches industrielles comme des handicaps. Et là, il s'agit de transformer l'essai et de considérer ces terrains non plus comme un handicap, mais comme une ressource.
Les femmes ont le pouvoir dans ces pas du vent aujourd'hui. Alors on chante avec Beyoncé, Run the World Girls.
Girls, who run this mother? 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 Girls, who run this m
avancée dans C'est pas du vent sur RFI. Notre studio est installé dans les bureaux de l'entreprise Pocheco à Forest-sur-Marc, près de Lille, dans le nord de la France, à l'occasion des premières rencontres de l'écolonomie. 3 jours d'échange avec une douzaine de femmes inspirantes autour du thème de la transformation créatrice pour repenser nos manières d'habiter le monde en préservant la biodiversité plutôt qu'en la détruisant. Vous l'avez entendu à travers ce que font les 4 femmes qui sont avec moi autour de cette table. Le vivant a sa place et on peut l'introduire dans le monde économique et même l'utiliser tout en lui rendant bien ce qu'on lui prend. Parce que, Kalina Raskin, en quoi le biomimétisme peut permettre de répondre au défi de la disparition accélérée de la biodiversité sur laquelle nous alertent les scientifiques? En quoi c'est un bon outil de sensibilisation?
Par définition, pour pouvoir faire du biomimétisme, il faut pouvoir acquérir des connaissances approfondies sur le vivant, sur son fonctionnement en écosystème, sur les interactions entre les espèces. Et donc, toute espèce qui disparaît fait disparaître avec elle des idées potentielles. Donc, le biomimétisme, c'est un remarquable argument en faveur de la conservation de la biodiversité. Et c'est vrai que quand on travaille et on interagit avec des entreprises, on est sur une nouvelle typologie de discours qui n'est pas un discours, entre guillemets, punitif autour de la biodiversité. Mais on leur dit, mais finalement, regardez, vous avez tout à gagner, à la fois en faisant alliance avec la biodiversité, en intégrant la biodiversité dans votre stratégie, mais aussi en vous en inspirant.
Alors, par exemple, qui travaille avec vous et qui a fait quoi? Donnez-nous quelques exemples concrets.
Alors, on travaille avec un très grand nombre de secteurs industriels. On travaille avec les secteurs de la cosmétique et on travaille avec les secteurs de la cosmétique, notamment sur la question de la réserve en eau et l'utilisation du fait des cosmétiques et notamment de certains produits lavants sur l'utilisation de l'eau. Et donc, on travaille avec de grandes entreprises de la cosmétique pour réfléchir à comment le vivant peut nous enseigner finalement à une nouvelle hygiène en s'inspirant de la façon dont la majorité des espèces finalement n'utilisent jamais d'eau ou très très peu d'eau et de fluides pour pouvoir se laver. Dans le domaine de la construction, on travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'urbanistes, de cabinets d'architecture, de promoteurs immobiliers sur comment finalement penser les systèmes et les infrastructures bâties et construites par l'homme pour qu'elles rendent à minima les mêmes services écosystémiques que les écosystèmes qu'elles ont remplacés. Donc on n'est pas simplement sur cette question absolument indispensable de la réintégration de la biodiversité sur les sites, mais on est pleinement dans comment l'infrastructure que je pense, que je crée, va elle-même rendre des services écosystémiques. Donc comment elle va produire de l'énergie, stocker de l'énergie, purifier l'air, purifier l'eau et contribuer finalement à la transition écologique du point de vue même fonctionnel de l'infrastructure.
Leslie Goncalves, vous saviez que vous faisiez du biomimétisme?
J'espère. Mais non, effectivement, je ne fais pas du biomimétisme avec une architecture organique, comme ça peut se faire. Mais j'ai peut-être un exemple qui prétayait ça. On a travaillé l'année dernière sur un projet urbain, un quartier. Et ce qui était très intéressant, c'est que le promoteur a décidé, dans sa même équipe, de faire travailler 2 équipes d'archi. Donc, il y avait une équipe d'archi qui répondait vraiment strictement au cahier des charges qui était demandé et strict. Avec, par exemple, une organisation, d'un côté les bureaux, d'un autre les logements, des voiries qu'il fallait détruire et refaire bien droite, réorganiser des boulevards très importants pour avoir des structurations urbaines et paysagères plantées. Et puis nous, on était les outsiders, on avait carte blanche et on n'a pas du tout rendu ça. On a encore marché le lieu. On a finalement décidé que toutes les maisons qui étaient sur place et qui étaient en frontière de la route venaient créer en fait un masque de bruit, étaient très plantées, et que s'il fallait détruire ça, ça allait demander énormément d'argent, ça allait aussi déboiser, donc c'était pas intéressant. On a préféré plutôt densifier en partie centrale, recréer des cours d'eau, ne pas faire du tout cette grande allée qui était souhaitée, maintenir en fait les voiries, même si elles n'étaient pas très esthétiques, en courbe et en contre-courbe, et au contraire profiter de ça pour créer de l'agroforesterie, faire un lien avec l'eau. Et donc j'y viens. Ce qui nous a surtout rassurés et finalement qui fait que ça marche, c'est que le bilan promoteur rendait notre opération 1,5 million moins cher que nos confrères. Ça veut dire que pour la collectivité, ça leur permettait d'avoir de l'argent pour au contraire participer au projet. Et financièrement, c'était viable parce que moins de voiries, moins d'enrobés, moins de trottoirs, moins de clôtures.
Et c'est où ce beau projet ?
Alors, c'est un projet finalement qui n'a pas, avec les élections, qui n'a pas été maintenu. Mais en tout cas, ça a été l'occasion pour nous d'une réflexion et finalement de vérifier avec un chiffrage que ça fonctionne.
Alors justement, Béatrice Crémer-Cochet, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que le réensauvagement, quand vous en parlez, on peut se dire bah, c'est finalement apprendre à se mieux partager les espaces entre les humains et les non-humains, mais c'est aussi apprendre à cohabiter différemment, parce que finalement, il y a toute une économie qui est en train d'émerger, que vous appelez l'économie de la contemplation, qui rapporte beaucoup d'argent, beaucoup plus que la pêche ou la chasse. Il y a plusieurs exemples qui démontrent cela.
L'exemple que je donne traditionnellement avec Gilbert Cochet, donc qui a coécrit le livre avec moi, c'est l'histoire d'un pisciculteur, d'un balbuzard. Ça se passe en Écosse. Donc le pisciculteur avait des bassins dans lesquels il élevait des saumons, des truites. Et puis, c'est un pays dans lequel il y a également un balbuzard. Le balbuzard, c'est un rapace qui pêche et qui se nourrit du produit de sa pêche. Et donc, ça n'a pas manqué. Au bout d'un certain temps, le balbuzard est venu pêcher des truites et des saumons dans les bassins du pisciculteur. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce qu'au lieu de chercher à éliminer le prédateur, le pisciculteur a réfléchi un certain temps. Et finalement, il s'est dit, bon, si j'élimine cet animal, de toute façon, il va être remplacé par un autre, parce que la nature fait qu'une niche écologique ne reste jamais vide longtemps. Donc, je ne fais que éliminer ponctuellement mon problème, et de toute façon, il va revenir. Donc, il a réfléchi un long moment, et puis finalement, il a creusé un autre bassin dans lequel il a jeté des saumons, des truites, il a transporté des saumons, des truites qui étaient un peu malades, qui avaient des mycoses, qui lui, finalement, n'étaient pas commercialisables. Et il a protégé sa pisciculture à lui, et ça a marché. Le balbuzard est venu pêcher les truites, les saumons malades. Et comme c'était quand même un spectacle assez joli, il a construit un petit abri qui permettait d'observer l'animal, entre le balbuzard en train de pêcher. Il a fait des photos et puis il s'est dit, tiens, bah finalement, je vais louer mon abri à des ornithologues, des photographes, des cinéastes. Et ça a marché très, très bien. Et ça a même tellement bien marché qu'au bout du bout, sa location d'abri pour observer le balbuzard en train de pêcher lui rapportait plus que sa pisciculture. Et effectivement, on termine en disant que la morale de cette histoire, qui pourrait être une fable du XXe siècle, eh bien, c'est que l'économie de la contemplation, finalement, rapporte plus que l'économie de l'exploitation. Et je crois que c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le pisciculteur a cherché à infléchir un comportement naturel du vivant plutôt que de le supprimer pour transformer son problème en opportunité. Et je pense que ce mode de pensée, cette façon de penser en dehors de la boîte, to think outside the box, disaient les anglo-saxons, il était écossais, c'est vraiment important pour protéger et cohabiter avec les autres formes du vivant. Parce que ce qu'on ne dit peut-être pas suffisamment, c'est que l'homme et ses animaux domestiques, ses mammifères domestiques, c'est 96% de la biomasse des mammifères terrestres. Ça veut dire autrement que tous les mammifères sauvages, y compris les gros, lourds, comme les éléphants, les girafes, les rhinocéros, les hippopotames, etc., ça ne représente plus que 4% de la biomasse des mammifères terrestres. Et il y a un rapport qui vient juste de sortir et qui dit qu'actuellement, sur l'ensemble de la planète, il n'y a plus que 3% de la surface des continents qui ne sont pas exploités par l'homme, qui ne sont pas gérés par l'homme.
Voilà, donc laissons la place aux vivants. Et ce que vous expliquiez, ça peut être transposé dans plein d'endroits, cette belle fable du balbuzard et de la pisciculture, puisque on voit par exemple en Islande, avant on pêchait la baleine, maintenant ils ont développé l'observation des baleines et c'est un succès touristique extraordinaire. En Afrique, on voit bien aussi qu'un éléphant vivant rapporte beaucoup plus qu'un éléphant mort, etc. On pourrait décliner à l'infini ces exemples. Marie-Odile Simoneau, la technique de l'agromine démontre aussi que nous pouvons cohabiter finalement harmonieusement avec le vivant et tout le monde s'y retrouve.
Oui, absolument. L'agromine va donc consister à mettre en œuvre ces plantes hyperaccumulatrices sur un terrain pollué, par exemple, ou sur un terrain qui contient naturellement des métaux. Et chaque fois que l'on implante des végétaux, on favorise le stockage de carbone, on favorise la biodiversité. Donc c'est une méthode. Alors l'agromine d'une part, mais les phytoremédiations en général, ce sont des méthodes qui ont beaucoup de succès à l'heure actuelle, qui sont très prometteuses et vers lesquelles les entreprises de dépollution des sols se tournent, alors qu'il y a encore quelques années, elles ne considéraient pas cela comme sérieux parce que c'était des fleurs et que voilà, c'était pas sérieux. Mais maintenant, il y a un véritable intérêt pour ces techniques.
Oui, puis il faut expliquer qu'avant, enfin ça se pratique toujours d'ailleurs, mais pour dépolluer un sol, on enlevait le sol.
Absolument. La technique la plus utilisée, malheureusement, pour dépolluer les sols, c'est ce que l'on appelle en anglais le dig and dump, c'est-à-dire on creuse, on excave et on transporte la terre polluée vers un centre de stockage. Or, bien évidemment, on ne peut pas excaver toute la planète, hein, ça c'est pas possible. Donc ce système a des limites et il faut absolument arriver à trouver des solutions qui permettent de dépolluer les sols, tout en respectant l'environnement. Il n'y a pas que les phytoremédiations, il y en a d'autres aussi, bien sûr, mais les phytoremédiations en font partie.
Et on chante les femmes aujourd'hui dans C'est pas du vent avec Prince Nikon Barga, Sweet Mother.
C'est ça. Rockafi just presenting you Sweet Mother.
Sweet Mother, I no go forget you for this suffer way you suffer. Sweet mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. Yeah. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry? Yo yo, stop, 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 stop. Make you no cry again. Oh. When I won't sleep, my mother go bed me. She go lie me well, well for bed. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin.
Nikon Barga dans C'est pas du vent sur RFI. Notre studio est installé dans les bureaux de l'entreprise Pocheco près de Lille dans le nord de la France. Une entreprise qui démontre depuis 25 ans avec la méthode de l'économie que nous pouvons produire sans détruire. La transformation créatrice, c'est le thème des premières rencontres de l'économie qui ont lieu cette semaine. Trois jours d'échange avec une douzaine de femmes inspirantes et en ce moment, nous avons bien besoin d'inspiration. La crise sanitaire que nous traversons démontre que nous ne pouvons plus continuer à ignorer que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Un petit virus peut confiner la moitié de l'humanité et il est temps d'en tirer des leçons. Kalina Raskin, est-ce que vous pensez que cette crise va donner un élan au biomimétisme ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience ?
Je pense que l'élan majeur que va apporter cette crise, c'est cette relation homme-nature, parce qu'on sent bien qu'une grande partie de la population, et ça a été largement évoqué, hein, a eu cette envie et ce besoin de se reconnecter au vivant. On a bien senti que la population changeait de regard finalement sur le vivant et sur la biologie, et le biomimétisme apporte et appelle à ce nouveau regard. Est-ce que ça va provoquer un nouvel élan pour le biomimétisme? Si on considère que le biomimétisme est un outil de la transition écologique et que la crise que nous avons traversée, on va dire, tire encore plus fort la sonnette d'alarme, alors oui, ça va être un facteur d'accélération du biomimétisme. Après, honnêtement, quand j'ai écouté récemment les médias qui disent que les compagnies aériennes n'ont jamais enregistré autant de commandes de billets d'avion que pour cet été, on se dit que voilà, c'est pas gagné. C'est pas gagné.
C'est pas gagné. Pourtant, Béatrice Kremer-Cochet, c'est vrai qu'on a souffert quand on était confiné, enfermé chez soi, de ce manque de contact avec l'extérieur et avec la nature. Ça a été dit et écrit partout.
Tout à fait. Et cette souffrance, enfin en tout cas pour les citadins, parce que dans les campagnes, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même façon. Donc tout le monde n'a pas souffert de la même façon. Mais notamment lors du premier confinement qui a été très dur et très strict, les citadins ont énormément souffert. Ils ont pris conscience de ce besoin de nature que nous avons tous. Et si on réfléchit, c'est quelque chose de tout à fait logique, parce que l'espèce humaine a évolué au contact de la faune sauvage. Et notamment, si on regarde les premiers carnets de notes des observateurs qui étaient les hommes préhistoriques, c'est-à-dire les traces qu'ils nous ont laissées sous forme de peinture ou de gravure rupestre, on regarde la grotte Chauvet, par exemple, qui date de 35 000 ans, dans les gorges de l'Ardèche. Eh bien, il y a 14 ou 15 espèces différentes qui sont représentées. Donc, ça veut dire qu'il y avait une diversité que nous n'avons pas tout à fait conservé, en tout cas au moins dans certains endroits. Il y a pour chaque espèce un grand nombre d'individus qui sont représentés, notamment il y a des scènes avec des lions, des lionnes plus exactement, qui sont en très grand groupe. Donc ça montre aussi qu'il y avait une abondance, que là par contre on a totalement perdu. On n'a plus idée des densités naturelles de certaines espèces que dans les parcs nationaux, qui sont justement des sanctuaires. Et si on prend une espèce qui ne cause pas de dégâts, comme le chamois, par exemple, eh bien, on se rend compte que le chamois, d'abord, il se régule très bien tout seul. Et ça, on l'a vu avec le parc national de la Vanoise. Il n'y en avait pratiquement plus, à peu près 300 quand le parc national a été créé dans les années 1960. Et puis, comme c'est un parc national, eh bien, on l'a protégé, on l'a laissé se développer. Donc, il est passé de 300 à 1000, 2000, 3000. On était un petit peu inquiets. On s'est dit, ouh là là, c'est la catastrophe. Il faudrait peut-être réguler. Et puis, finalement, non. Comme c'est un parc national, on a laissé faire. Et on est arrivé comme ça à 6000 chamois. Et ça s'est stabilisé. Le parc national de la Vanoise fait 60 000 hectares. Donc, quand on arrive à une densité de 10 chamois pour 100 hectares, eh bien, le chamois met en place une sorte de planning familial. Il s'autorégule. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait prendre un petit peu exemple. Alors, il s'autorégule par différentes façons. Il n'y a plus de naissance gemellaire. Les femelles deviennent matures un petit peu plus tard. Elles font un petit un an sur deux au lieu d'en faire un tous les ans, etc. Et ça se passe très bien. Donc, finalement, si on laissait les choses se faire, au moins sur certains espaces, on retrouverait cette abondance qu'on a totalement perdue, dont on n'a plus idée. Et puis surtout, si je reviens à mes peintures rupestres, quand on regarde de près les détails de ces animaux qui ont été dessinés, on voit que l'observateur les a vus vivants, parce qu'il y a des détails qui montrent que ce n'étaient pas des cadavres qu'il a dessinés, mais bien des animaux vivants. Et il y a une précision parfois dans l'expression du regard. On voit par exemple un lion qui suit une lionne, on voit qu'il a très envie, et puis la lionne lui jette un regard. Manifestement, ce jour-là, elle avait la migraine. Ce n'était pas la peine d'insister. Mais ça, c'est des détails que l'homme préhistorique a vu de près. Donc il y avait une proximité, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni jumelles, ni téléobjectifs. C'est cette proximité qui nous manque beaucoup en France et en Europe. Dans d'autres pays, dans d'autres continents, elle existe encore. Et pour moi, ça a été un révélateur quand je suis allée en Australie, par exemple, quand je suis allée aux États-Unis, en Namibie. On a encore cette proximité avec la faune sauvage. Et j'aimerais bien qu'on puisse la retrouver chez nous, parce que c'est une proximité qui nous fait beaucoup de bien. Elle nous apporte un bien-être, une concentration, un équilibre, un bonheur, tout simplement. Quand vous revenez d'une balade et vous avez vu des bouquetins de près, c'est pas du tout la même balade que quand vous avez vu un beau paysage de cartes fossiles vidé de sa faune. Donc elle nous apporte quelque chose de très fort, de très équilibrant. Et j'aimerais bien qu'on puisse retrouver ce bonheur facile, gratuit, en France.
Leslie Goncalves, le bonheur dont parle Béatrice Crémer-Crochet, on peut le ressentir aussi dans un habitat éco-conçu, ou en tout cas ce sentiment d'apaisement qui peut être lié à des matériaux qui sont beaucoup plus naturels que ceux qu'on a construits depuis des années. Après, c'est un vrai combat pour que ces matériaux soient appropriés par les gens. Je pense notamment sur le continent africain, une maison en terre crue, ça fait un peu pauvre. La maison plus riche, c'est la maison en béton. Donc, on a peut-être des leçons à tirer de tout ça.
Oui, c'est vrai que moi, je suis déjà une personne kinesthésique. Donc, quand je passe à côté d'un mur en terre crue, j'ai envie de le toucher, ces sensations-là. Les matériaux écologiques, effectivement, redonnent des sensations, des qualités saines quand on rentre dans un bâtiment construit de bois. Il y a une forme de lumière, de générosité, d'esthétique qui est très agréable. On est apaisé, on est dans une dimension comme ça douce. Je voulais rebondir sur la question après 2020-2021.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est quelque chose qui nous a énormément touchés avec Philippe. On s'est retrouvés à la maison et effectivement, dans un besoin de se reconstruire un peu vis-à-vis de cette pandémie et de réfléchir à... quelle était notre vie et notre projet. Et on a décidé d'écrire une lettre ouverte à nos enfants, donc à nos grands. À l'époque, ils avaient donc 16 et 13 ans. Et en fait, on a écrit, et ça, c'était quelque chose qui a été fort pour nous, que nous, architectes, avions un rôle à jouer aussi là-dedans. Un rôle dans le sens où on avait des clés pour retrouver des villes, des quartiers agréables à vivre, des perspectives, retrouver aussi des zones à renaturer. Et à travers cette écriture de ce texte, qui est une sorte de tribune, on a pu finalement, au-delà de se reconstruire nous, peut-être apporter des formes de solutions très positives, tant positives qu'on vient de faire un nouveau bébé. Donc c'est qu'on y croit et qu'on voit un futur finalement dans ces villes fertiles et vivantes.
Marie-Odile Simoneau, en fait ce qui est intéressant aussi dans cette démarche d'agromine, c'est que bien sûr ça ne remplacera pas les mines, parce que vous disiez tout à l'heure on extrait 250 kilos de nickel par hectare, c'est évidemment beaucoup moins qu'une mine traditionnelle, mais c'est ce que vous appelez une mine douce. Vous dites que ça s'intègre dans une logique d'économie circulaire. Enfin, tout ça, ça va dans le sens donc, de la préservation du vivant et d'une autre façon de concevoir le rapport aux ressources naturelles qui, quoi qu'il arrive, reste limité.
Exactement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les ressources naturelles s'amenuisent et on risque, et on le constate déjà, de manquer de certaines matières premières. Alors on parle de matières premières comme les terres rares qui entrent dans les technologies actuelles, comme les éoliennes par exemple. Mais il y a aussi des matières très courantes comme le magnésium. Le magnésium, on peut même en prendre en comprimé, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Eh bien, le magnésium devient une matière première critique. Donc il va falloir changer nos modes de vie, certainement consommer moins, c'est une évidence, et aussi aller chercher des ressources là où elles se trouvent, et pas uniquement dans les mines. Donc des métaux, il y en a aussi dans les terres polluées, il y en a dans certains déchets, il y en a dans les objets que l'on jette, les déchets électroniques par exemple. Donc on doit actuellement, il y a beaucoup d'efforts en ce sens, progresser pour aller exploiter ce que l'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire aller chercher les métaux dans cet océan de déchets que l'on génère finalement. Ça n'a pas de sens de brûler, de mettre dans un incinérateur un objet qui contient des métaux. Autant aller rechercher les métaux et les valoriser comme cela. Alors, votre question initiale, c'était sur l'influence de la crise. Qu'est-ce que de la crise sanitaire ? Bon, la crise sanitaire, c'est un gros malheur pour beaucoup d'entre nous, puisque beaucoup ont souffert et ont perdu des proches. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, évidemment. Mais cette crise sanitaire, elle a démontré quelque chose. Elle a démontré la capacité d'adaptation rapide de l'homme face aux problèmes. Et on le sait tous très bien. Quand on a quelque chose à faire et que c'est pour dans longtemps, on ne le fait pas, on traîne. Alors que si c'est pour demain, si c'est très urgent, on le fait. Donc... le changement climatique, c'est un petit peu pareil, ou l'effondrement de la biodiversité. C'est-à-dire, on nous en parle, mais on n'en voit pas les effets immédiats. Donc, on se dit, ben oui, il faut faire des efforts, mais tandis que là, avec ce virus qui nous a cloués à la maison, hein, on a bien vu qu'il fallait apprendre à vivre autrement, à travailler autrement. Et on a pris aussi conscience de l'importance du rapport à la nature. Et de tout cela, eh bien, il faut en tirer bénéfice. Alors, il ne faut pas oublier, hein, on parlait tout à l'heure de la recrudescence des réservations d'avions. C'est cette période-là, il ne faut pas l'oublier et arriver à en tirer le meilleur.
Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'assister et de faire connaître ces rencontres de l'économie à laquelle nous assistons et auxquelles vous participez. Kalina Raskin, pourquoi c'était important pour vous d'assister à ces rencontres de l'économie ?
Alors déjà parce que, en toute honnêteté, j'étais jamais venue sur le site de Poche Éco et c'était un rêve depuis très longtemps. Moi, j'avais eu la chance d'écouter Emmanuel Druon il y a plusieurs années lors d'une réunion des entreprises pour l'environnement et j'avais été absolument ébahie par la capacité créatrice de cet entrepreneur et de toute son équipe. Donc là, je réalise un premier rêve qui est celui de venir visiter cette initiative absolument remarquable et c'est vrai que nos éditeurs n'ont pas l'image, mais alors c'est un vrai régal, tant d'un point de vue manifestement environnemental, quand on voit la prolifération de la biodiversité qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur ce genre de site, que d'un point de vue effectivement du bien-être des équipes, on sent bien que les équipes ici sont contentes de venir tous les jours travailler. Et puis d'un point de vue, on va dire intellectuel et mobilisateur, alors moi je suis profondément déjà honorée d'avoir été conviée à intervenir dans ce cadre-là. Et puis surtout, quel bonheur d'écouter en fait ces différents points de vue, ces différents éclairages féminins sur cette nécessité absolue de nous transformer collectivement, individuellement, de créer de nouveaux imaginaires et de repenser des façons de vivre ensemble. Donc, pour plein de raisons, absolument ravie d'être ici.
Béatrice Crémer-Cochet.
Oui, moi aussi, je suis ravie d'être ici, donc avec Gilbert Couchet qui collabore avec moi depuis de très nombreuses années. On s'applique à faire passer notre message de la nécessité du réensauvagement. Et je rajouterais peut-être un élément que je n'ai pas cité lors de la question précédente, c'est-à-dire que quelle leçon nous a appris cette crise de la Covid-19. Eh bien, cette leçon, ça a été aussi que la nature est extrêmement résiliente. On l'avait déjà constaté par le passé à travers différents exemples, mais là, c'était particulièrement flagrant puisque il a suffi que l'homme se retire et se confine pendant quelques mois pour que la faune qu'on croyait disparue complètement de nos villes et de certaines parties de nos campagnes ou de nos zones périurbaines réapparaisse à petits pas. On a vu des loups traverser la France et se retrouver complètement à l'ouest de la France, partie des Alpes, et donc la grande traversée. On a vu des rorquals qui venaient sur les côtes méditerranéennes. On a vu des dauphins pas très loin de Venise. On a vu réapparaître tout un monde qu'on croyait disparu. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de porter ce message positif auprès des gens, de leur dire non, tout n'est pas fichu. On a fait des grosses bêtises, on a aidé à la destruction de certains espaces et de certaines espèces. Mais si on lui donne la place et le temps, bien, ces espaces naturels peuvent à nouveau se redévelopper et ils vont nous apporter beaucoup. Parce que sanctuariser un espace, ce n'est pas exclure l'homme. Ces espaces-là sont ouverts à la pénétration de l'homme. Ils sont simplement fermés à l'extraction, à l'exploitation, on va dire, humaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut réensauvager tout le territoire. On a bien entendu besoin d'endroits pour habiter, on a besoin d'endroits pour exploiter. Par exemple, le bois pour construire les maisons, il va falloir bien le prendre de quelque part. Mais il faut arriver à reconsidérer cette place qu'on laisse à la libre évolution et qui est beaucoup trop faible en France. On n'en est qu'à 1% de la surface du territoire qui sont en libre évolution. Et donc c'est quelque chose qui est très facile. Et le milieu dans lequel c'est le plus facile et dans lequel on aura les résultats les plus immédiats, ce sont les rivières. C'est-à-dire redonnons une liberté aux rivières quand c'est possible, supprimons les seuils ou les petits barrages inutiles. Il y a à peu près 500 000 barrages sur les différentes rivières françaises et sur ces 100 000, il y en a peut-être 500 qui sont vraiment utiles, qui sont des gros producteurs d'hydroélectricité. Tous les autres, on peut les effacer et redonner comme ça une fonctionnalité à à ces rivières. Les résultats sont immédiats.
Voilà, et c'est ces propos-là que vous avez tenus devant les entrepreneurs qui suivaient la formation des rencontres de l'économie. Leslie Goncalves, pourquoi c'est important ?
Ce que je veux dire, c'est que finalement, ce qu'il y avait d'intéressant dans ces rencontres de l'économie, c'est que finalement, ça nous permet de toucher et de porter le message auprès d'un public qui ne vient habituellement pas à nos conférences. Et donc, je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir toucher ce public-là. Et je remercie beaucoup Emmanuel Druon et toute son équipe d'avoir organisé ces rencontres.
Leslie Goncalves, pourquoi c'est important pour vous d'être ici ?
Pareil, j'ai été très honorée d'être conviée déjà. Visiter le site est incroyable et effectivement, ce côté sauvage, je ne pensais pas qu'on pouvait l'avoir à ce point-là. Donc ça va encore plus me donner des idées pour la suite. Ensuite, ce qui est aussi important, je trouve, c'est au regard de tous les thèmes qui ont été abordés, que l'architecture soit présente. C'est un sujet qui touche un peu tout le monde. C'est un sujet aujourd'hui qui est banalisé avec des constructions similaires qui rendent nos villes absolument lépreuses et désastreuses souvent. Et là, il y a un réengouement vers d'autres sujets et donc c'est le moment de pousser et de rendre désirable une autre façon de construire.
Marie-Odile Simoneau.
Eh bien, j'ai été particulièrement heureuse d'être ici lors de ces rencontres pour rencontrer toutes ces femmes inspirantes qui sont spécialistes de sujets très différents, puisqu'on parle aujourd'hui de biomimétisme, de réensauvagement, d'architecture et même d'agromine. Mais il faut savoir aussi que nous avons eu le plaisir de rencontrer des anciennes ministres, nous avons entendu parler de littérature, de droit de l'environnement, etc. Donc un grand nombre de sujets, et ça c'est vraiment, vraiment inspirant, le fait de pouvoir croiser ces différentes approches, ça donne des éclairages tout à fait particuliers. Et ça permet aussi de les partager avec ce public industriel qui n'en a pas forcément toujours, qui ne prend pas toujours le temps. Voilà, donc merci à Emmanuel Druon et à son équipe.
Et ces rencontres de l'économie ont été filmées, donc elles seront accessibles à ceux qui voudront les consulter. Vous verrez l'adresse sur la page internet de l'émission. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci à Malika Beraghed pour son aide dans la préparation et à François Porcheron pour la réalisation et l'installation de ce studio dans les bureaux de Pocheco. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir, hein, comme d'habitude, par mail c'estpasduvin@rfi.fr. ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
L'épopée des musiques noires.